Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Judith Doré, qui va venir nous parler de Thomas, qui a du mal à croire, et des apparitions de Jésus. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine. Donc, que pensez-vous de Thomas? Ou quand vous y pensez, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Thomas?
D'habitude, on parle de lui comme quelqu'un qui a douté de la résurrection de Jésus.
Alors, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il est mentionné 11 fois, dans l'Évangile. Il a aussi le nom de Didyme, le jumeau. Donc, on ne sait pas de qui il est le jumeau, mais certains commentateurs voient le lecteur, le chrétien lambda, comme jumeau, en quelque sorte, de Thomas.
Traditionnellement, il est la figure de celui qui doute et à qui on demande de croire sans avoir vu, sans avoir la preuve tangible.
On voit Thomas à un moment important dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, au moment de la mort de Lazare. Jésus annonce qu'il va aller à Béthanie. Et les disciples sont affolés. Ils lui disent « Tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Mais Thomas répond aux autres disciples « Allons-y nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Et là, on peut dire qu'il se montre très courageux. Mais aujourd'hui, nous allons lire l'épisode bien connu qui a eu lieu après la résurrection. Donc Marie-Christine va nous lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29. Merci.
Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Au début de ce chapitre, Marie-Madeleine a découvert le tombeau vide. Elle est allée prévenir Pierre et Jean, qui ont couru constater aussi le tombeau vide, sans comprendre. Jésus apparaît ensuite à Marie-Madeleine, et elle le reconnaît. Elle lui dit « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ».
Ensuite, le Christ apparaît à ses disciples.
Donc ce chapitre est une suite de rencontres avec le ressuscité. Des rencontres à la fois personnelles et communautaires, avec des femmes, avec des hommes. À chaque fois, il y a basculement. Si nous nous concentrons sur la rencontre de Thomas avec le ressuscité, car cette histoire ne se trouve pas dans les autres évangiles, mais uniquement dans Jean. Et pourtant, Thomas n'est pas vraiment le seul des disciples à douter. On se rappelle sur le chemin d'Emmaüs, le désespoir des deux disciples qui quittent Jérusalem. On voit au début de notre passage que les autres disciples racontent qu'ils ont vu Jésus, qu'il est venu au milieu d'eux au moment où ils se rassemblaient. Ils étaient enfermés, toutes portes closes, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Mais Thomas met carrément en doute leur témoignage, de façon claire, nette et même véhémente. « Si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne le croirai jamais. » Thomas ne veut pas s'en remettre à l'expérience des autres pour croire. Il veut fonder son croire sur son expérience propre.
Et il veut non seulement voir, mais aussi toucher.
C'est comparable à la demande classique de signes pour pouvoir croire. Le fait qu'il veut vérifier les stigmates indique qu'il veut s'assurer que le crucifié, qu'il sait mort, est réellement vivant. Et en plus, qu'il ne s'agit pas d'un fantôme. En voulant vérifier la réalité de la résurrection du Christ en fonction des critères du monde, voir et toucher, il soumet la vérité de Dieu à son jugement d'homme. Mais on comprend très bien son hésitation et sa demande.
Photo.
Au verset 26, il nous est dit « 8 jours plus tard, Jésus vient de nouveau. »
On retrouve le même enfermement que Jésus franchit les deux fois. On lit « Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, les mêmes paroles, « Que la paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous, la paix, en grec, Irénée, est l'équivalent de shalom en hébreu, ce qui n'est pas seulement un souhait de courtoisie, un simple bonjour. Non, il s'agit de la plénitude de la relation, que ce soit avec Dieu ou avec les hommes. C'est donc bien plus qu'un simple bonjour de courtoisie. C'est pour sortir de la peur, de l'enfermement, du manque de foi. Jésus est celui qui permet la plénitude de la relation, même au cœur de la violence ou de toute fermeture. Dans la rencontre entre le Christ et Thomas, alors qui prend l'initiative?
C'est le Christ.
Oui, c'est le Christ. Thomas n'est plus en position de poser ses conditions. Le Christ est omniscient, il sait tout. Nul besoin de lui répéter les paroles de Thomas. Il connaît parfaitement les pensées et les sentiments de chaque être humain. Il a une profonde connaissance de l'existence humaine. Et il prend au sérieux les espoirs et les doutes. Il prend chacun là où il en est, que ce soit les disciples, Thomas ou nous. Thomas est pris au mot. Il est invité à vérifier les stigmates. Et on lit
« Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. »
Et ensuite, Jésus lui dit quelque chose de très important.
« Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. »
Oui, la parole du Christ transforme Thomas. Elle le confronte à son incrédulité et elle montre son identité. Et la foi lui est donnée, comme à Marie de Magdala. La foi n'est pas une œuvre dont le mérite reviendrait aux disciples. C'est un don du Christ ressuscité. La parole du Christ accomplit ce qu'elle dit. C'est ce qu'on appelle une parole performative. C'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Quand il dit « deviens un homme de foi », il le devient. Et personnellement, je pense que Thomas n'a pas touché, mais a seulement vu les stigmates. Et il confesse sa foi. « Mon Seigneur, mon Dieu ». Thomas dit comment le Christ veut et doit être compris.
Non, 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 non
Verset 29. Alors, verset 29, qu'est-ce qu'on a?
On a « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mais c'est une béatitude.
Oui, c'est une béatitude. Avoir vu ou ne pas avoir vu le ressuscité. Qu'est-ce qui fonde la foi? C'est l'absence, ce qui peut être surprenant. Si on sait quelque chose, si on peut prouver quelque chose, il ne s'agit pas de la foi. La véritable foi ne dépend pas d'un miracle ou d'une apparition. La communion avec le Christ n'est pas l'affaire d'un instant, mais c'est une expérience permanente qui vient dans le souvenir de l'incarnation et par le don de l'Esprit, le Paraclet. Et cette expérience est toujours renouvelée. Cette dernière parole de Christ relativise la signification des apparitions. Il est accordé à Thomas de voir le Christ, un peu comme une concession à la faiblesse humaine. C'est un signe. Et là, on fait remarquer qu'on est dans l'évangile de Jean, et Jean ne parle pas de miracle, mais de signe. Donc c'est un signe qui renvoie au miracle véritable, le Christ comme manifestation du salut de Dieu. Donc, comme on dit, dans l'évangile de Jean, il parle de signe. Et le terme signe renvoie à la nécessité d'interpréter le lien entre ce qu'on voit et la nécessité d'y lire la présence de Dieu.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Cela s'adresse à la communauté autour de Jean et à nous. À l'époque où l'évangile est écrit, c'est-à-dire les années 85-90 de notre ère, il n'y a plus de témoins directs de la résurrection. Ils n'ont pas connu Jésus. Les gens de la communauté de Jean n'ont pas vécu la découverte du tombeau vide, ni les apparitions. Donc la foi trouve son authentique fondement dans la parole et le témoignage de l'Église. Thomas représente le croyant des générations ultérieures. Thomas pense que sa foi serait mieux fondée si elle est accompagnée d'un signe de vérification concrète. Il pense que cela serait facile de croire. Et là où il se trompe, et nous aussi, c'est de penser que Dieu peut être saisi et identifié avec des critères humains. En fait, Thomas ne vérifie pas, il ne touche pas. Il est mis en mouvement par la parole du Christ et il prononce la confession de foi la plus accomplie dans l'Évangile.
Et en conclusion?
La conclusion, c'est que Jésus laisse le temps d'accéder à la foi. Les disciples ont peur, ils se sont enfermés. Thomas n'a pas vu. Il a du mal à croire. Et le texte ne condamne ni les uns ni les autres. Croire au milieu des absurdités et en face de la mort. En face des guerres, en face du terrorisme, en face des persécutions, des humiliations, en face de la maladie. N'oublions jamais que Dieu s'incarne au cœur même de l'absurde et de l'inhumain. Malgré nos peurs, malgré nos enfermements, le Christ vient pour nous apporter la paix. Shalom. Ce sont justement nos incompréhensions mutuelles et nos doutes profonds qui sont acceptés. Ils nous permettent, en tant que communauté, une richesse. Il laisse de la place pour être rejoint par celui qui nous déplace. On ne peut pas nous suffire à nous-mêmes. On ne s'en sort pas par nous-mêmes. Il nous sauve de nos enfermements. Il nous met en chemin. Jésus vient nous rejoindre comme il a rejoint Thomas, là où nous en sommes. Thomas passe du déni à la confession de foi. La foi nous guérit de nos aveuglements. Elle nous remet en marche. Elle nous sort de nos enfermements et de nos impasses. Le Christ nous donne la paix. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes heureux, nous les destinataires de l'Évangile, qui n'avons pas vu, si par le témoignage des apôtres, nous croyons au Christ. Amen.
Je vous invite à la prière. Dieu, notre Père, au jour de doute et de désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de lassitude où nous sommes épuisés par ce que nous vivons, quand notre cœur nous accuse, enracine à nous un souffle neuf. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble barré, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, enracine en nous un souffle neuf. Dieu, plus grand que notre cœur, emmène-nous sur les ailes de ta tendresse. Il est temps de respirer plus large au rythme de ton souffle. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins au temple à 10h30. Le temple est 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Merci Judith. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir Marie-Christine. Merci à toi.